France Culture.
Attention, cet épisode peut contenir des propos choquants pour un public non averti.
Du coup, j'enchaîne direct sur le comment je suis et comment on perçoit.
La vie en noir. Une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelbaum.
Et ben, comment je me décrirais physiquement? Et ben, je suis métisse, assez grande, j'ai une afro.
Alors, déjà, bah, Anna, elle est plutôt petite. Je dirais 1m63, un truc comme ça. Non, t'as dit ta taille?
67, mais...
67, oh là 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 là. Plutôt menu, une coupe afro, on peut pas louper, que j'adore.
Épisode 3.
J'allais dire beige, mais je sais pas, c'est pas beige. La peau brun.
De père en fils. De mère en fille.
Un visage. C'est dur ça de décrire comme ça.
Johan, il est. Le premier critère que j'ai, c'est qu'il est grand. Il a des longues jambes fines. Et c'est vrai que ses cheveux, c'est un critère aussi qui revient souvent, parce que c'est un sujet aussi. Donc je dirais qu'il a les cheveux crépus frisés, ouais.
Ça veut dire quoi aimer quand on est noir? Aimer dans un monde où ton corps raconte une histoire avant toi. Aimer quand ta couleur précède ton prénom. Aimer quand le regard de l'autre peut t'enfermer dans un cliché ou t'idéaliser jusqu'à l'effacement. J'ai aimé des hommes blancs, toujours. Pourquoi mon désir va vers eux? Qu'est-ce que j'ai cherché dans leurs bras? Est-ce que mon désir est libre? Ou est-ce qu'il a été façonné, abîmé par le regard blanc? Je pense à ce qu'on a fait du corps noir. Le fantasme, la virilité, la peur... Le corps noir qu'on désire, mais qu'on n'épouse pas. Le corps qu'on veut toucher, mais pas comprendre. La femme noire ultra fétichisée. L'homme noir réduit à sa force, à son sexe. Toujours trop, jamais neutre. Et puis, il y a moi. Mon lit. Mon mari. Ses yeux bleus, sa peau claire. Son amour immense et sincère. Mais parfois, je me demande... Est-ce qu'il peut voir le monde comme moi? Est-ce qu'il voit sa violence, son racisme, ses lignes invisibles? Est-ce qu'il peut aimer un homme noir sans s'interroger? Et moi, est-ce que je peux aimer un homme blanc sans m'effacer? Et puis, il y a le sujet des enfants. Est-ce que je serai le père d'un enfant noir? Est-ce que la société m'autorisera à être le père d'un enfant blanc? La seule image que j'ai trouvée, c'est celle de Jim, dans le roman Huckleberry Finn de Mark Twain. L'esclave noir qui fuit sur un radeau avec un enfant blanc. J'ai voulu entendre comment d'autres couples vivent tout ça. Le désir, la honte, la peur, la transmission. Comment ils s'aiment malgré les ombres. Pour ça, nous avons recréé un cadre. Celui d'une thérapie, une séance collective, intime et politique. Avec la psychanalyste Amira Yayaoui, qui nous a accueillis dans son cabinet pour parler d'amour, de sexe, de famille et de ce que le racisme dépose dans les corps, dans le couple, dans le silence.
Je pense pas qu'on en ait parlé tout de suite.
Non, non, non. Et moi, j'ai traversé les années 80 et une grosse partie des années 90 avec une parole raciste qui était très libre, puisqu'on... Ça faisait des blagues à tout va. Enfin, je dis pas aujourd'hui le racisme est toujours présent, voire peut-être même plus. C'est juste qu'à une époque, les gens étaient très à l'aise avec ça. Je veux dire, il y avait des blagues. Je veux dire, le mot nègre, moi, je l'ai entendu dans toutes les années 80, voire même les années 90.
Johan.
Est-ce qu'il contrastait avec le fait que moi, quand j'allais à l'école, l'école véhiculait beaucoup de discours sur la République, au CM2, on faisait la Révolution française, on apprenait des chants révolutionnaires, on nous a fait chanter Lily, enfin des choses comme ça. Donc c'était très très contrasté. Et surtout, moi, quand j'étais enfant, j'avais pas conscience que j'étais métisse. C'est-à-dire, je me posais pas cette question-là. Je rentrais pas chez moi en disant ma mère est blanche, je le suis pas. Et je m'en rendais compte toujours quand il m'arrivait des incidents racistes, on va dire, ou des gens qui faisaient des blagues, etc. Donc, à l'époque, en 2014, quand je rencontre Michel, je sais pas que je suis blasé, mais je fais plus attention vraiment à ça. J'ai appris à vivre avec les blagues, etc., machin. Et donc, quand on se rencontre en 2014 avec Michel, ces questions-là, elles arrivent pas. Et ça me va très bien. En fait, les premières fois, je pense, où on commence à en parler, c'est... alors, peut-être je me trompe ou il y a des choses que j'oublie, mais c'est quand on va quand je vais rencontrer la famille de Michel. Mais je pense qu'on en a déjà parlé avant, mais c'est pas un problème, c'est pas un truc central. C'est... peut-être je peux lui raconter... Si on en a parlé, c'est pour... j'ai sûrement dû lui dire des choses du type... quelqu'un dans la rue s'extasie sur mes cheveux et se sent l'obligation de venir les toucher parce que c'est un truc qui revient quand même assez régulièrement. Peut-être on parle de ces choses-là, mais ça va pas non plus au-delà. Alors peut-être je me trompe et j'oublie des choses, hein, j'en sais rien.
Non, je pense que c'est à ce moment-là. C'est bien que tu parles d'une espèce de genèse aussi, parce que moi aussi, j'ai un parcours où je viens d'une famille au milieu ouvrier du nord de la France où j'ai des tontons racistes homophobes et les blagues racistes, ça y va, tout va. Mon père ouvrier, il est sorti, enfin, il a un humour noir, même on pourrait dire, d'un certain moment.
Michel.
Et d'ailleurs, quand j'étais petit et que ma tante me demandait si j'avais une petite copine, mon père répondait à ma place en plaisantant, en disant, t'es pas au courant, il sort avec un grand noir. Et ça, c'était la blague récurrente. Et d'ailleurs, ça m'a même invité quand je présente Johan à ma famille. C'était on a pris un resto, quoi. Ils sont venus à Lille et j'avais pas décrit Johan justement. J'avais pas décrit physiquement parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de central ou j'en sais rien. Et je pense que c'était peut-être une stratégie aussi que j'avais mis en place. J'ai pas un souvenir précis, mais je me souviens d'être devant le resto avec mon père qui fumait une cigarette et je lui ai dit alors t'es content, je te l'ai enfin ramené ton grand noir. Mais c'était un peu pour détendre le truc, mais j'avais pas d'appréhension parce que je savais que mes parents étaient pas du tout racistes. Enfin, on a grandi en tant que famille d'accueil avec les gosses de la DAS. Mes parents avaient des amis non blancs et enfin plein d'horizons différents. Enfin, j'ai ces questions-là, c'était pas en tout cas. Enfin, j'ai eu un coming out assez facile et Johan a été accueilli très bien. Enfin, ça a pas été un sujet du tout. En fait. Enfin, je me sentais en confiance, en fait, pour que ce soit jamais un sujet. Mais après, plus tard, il y a eu des petits épisodes, parce que forcément, quand il y a des baptêmes ou des communions, ce genre de choses, il y a beaucoup de monde et il y a des gens qui sont des cercles autour de la famille. Et il y a déjà des situations où Johan passait pour le noir de service, quoi. Enfin, je schématise, hein, mais c'est ça, parce que on n'a pas l'habitude d'en voir, on est à la campagne, et en fait, moi, j'ai fui ça aussi, parce que j'en avais un peu marre, quoi, de cette idée.
Je voudrais juste rajouter un truc. Avant, moi, de rencontrer la famille de Michel, j'ai des appréhensions, déjà, parce que sa famille, Michel vient d'un milieu... ouvrier, moi je du nord de la France que je connais bien. Enfin, moi mes grands-parents du côté de ma mère sont des mariniers. C'est des gens qui faisaient du transport de marchandises à bord des péniches entre le nord de la France et les Pays-Bas. Et c'était des gens très vieille France, très racistes. Mes grands-parents. Et donc avant de rencontrer les parents de Michel, je sais le milieu de ses parents. Et tout de suite, je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer et comment je vais devoir réagir ? Est-ce que je vais devoir réagir ? Est-ce que je vais faire semblant de pas entendre comme je fais parfois ? Ou est-ce que je vais être pincant parce que je sais que je peux aussi vachement l'être quand on me titille trop là-dessus ? Et c'est vrai que je me dis à quelle sauce je vais être mangé, quoi. Donc voilà, moi c'est avant de rencontrer les parents de Michel, j'ai quand même ces appréhensions-là. Je pense que peut-être même toi aussi d'ailleurs, j'en sais rien.
Ouais, j'avais un peu d'appréhension, mais... En fait, j'ai du mal à me souvenir si j'en ai vraiment parlé avant.
Et t'as dit, j'avais peur que Johan soit un peu le noir de service.
Ouais.
Est-ce que, et l'un et l'autre, vous avez une définition de ce que c'est le noir de service ?
Ouais, c'est une expression galvaudée, mais... C'est parce que je pense que c'est l'attente qu'on a aussi, quand je dis noir de service, c'est la caution de « je suis pas raciste, je connais un noir », enfin où il y a cette présence-là. On peut aussi des fois parler d'exotisme, hein, parce que, je sais pas, il y a déjà eu des blagues, je me souviens, du mec qui t'a dit, il devait y avoir la compagnie créole ou je sais pas quoi, les gens dansaient, et il y a un mec qui t'a dit... Bah quoi, tu vas pas danser
depuis, ah, je...
ouais, c'est enfin, ça revient, je l'avais oublié, ce truc. Mais du coup, il faut qu'il soit marrant, il faut qu'il soit... Enfin, il y a des attentes comme ça.
Ouais, moi, le noir de service, je dirais, c'est... comment dire souvent, j'ai l'impression qu'il faut que je me conforme à l'idée que la personne en face de moi se fait des gens noirs ou métis, etc., et j'ai l'impression quoi, que je dois jouer ce rôle-là pour leur faire plaisir ou pour pas qu'ils se sentent trop mal à l'aise. Tu vois, par exemple, quand on va me faire une remarque sur insistante sur pourquoi mon père est en France, etc., et que ça me fatigue de devoir répondre à ça parce qu'on n'est pas au commissariat, etc., et que je vais montrer des signes d'énervement, et ben de l'autre côté, la personne va dans une position défensive. Comme si, de façon inconsciente, elle avait, je lui disais qu'elle était raciste et que du coup ça commence à créer une espèce de gêne. Et d'un coup, hop, je dois me rentrer dans un rôle qui va en même temps lui dire non, t'es pas raciste. Oui, c'est moi qui surréagis. Tu vois, et pour moi, le faire le noir de service, c'est ça. C'est à chaque fois s'adapter, faire l'espèce de caméléon, rassurer les gens alors que c'est eux qui quand même sont vachement ingérants quoi, tu vois, voilà, c'est ça pour moi le truc du noir de service.
Mais ça c'est tout à fait ce qu'on appelle les assignations identitaires, c'est-à-dire le fait d'être que quelqu'un pointe quelque chose, assigne à l'autre une identité et à laquelle on finit par s'identifier finalement, on finit par répondre
psychanalyste
à la demande de l'autre, à ce dont on pense que l'autre voudrait qu'on soit, enfin se conformer aussi. Et ne pas se mettre en colère, parce que se mettre en colère, ça pourrait aussi être, oui. être un le noir qui s'énerve, enfin, tous les mais stéréotypes qu'on a aussi mais sur l'agressivité.
C'est se conformer, je joue un jeu. C'est-à-dire, je performe le métis qui va pas mettre mal à l'aise.
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, métis ? Eh ben, moi, finalement, je m'y retrouve grave. Je me sens pas forcément noire, je me sens métisse, parce que enfin j'ai l'impression que noire ce serait prendre la place de gens qui sont vraiment noirs, mais après dans certains contextes je me sens quand même noire avant tout. Et donc métisse, qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
Elina.
Eh ben, je crois que je l'aime bien parce que je me le suis un peu réapproprié, parce que donc métisse, toute ton enfance t'entends un peu les trucs, les faux compliments. Je pense que la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie est que littéralement je pourrais baffer quelqu'un. Et c'est marrant parce que c'est toujours ces trois mots exactement dans cet ordre, c'est « quel beau mélange ». Et c'est marrant que des gens complètement différents reprennent exactement ce « quel beau mélange ». Voilà. Et du coup, bon, quand tu sais un peu les histoires des métis où, en fait, on partage ni l'expérience du parent noir ni l'expérience du parent blanc. Et du coup, personne vraiment ne comprend ce qu'on vit. Mais par contre, tout le monde pense savoir que c'est super ce qu'on vit. C'est l'alliance entre les peuples, alors qu'en fait, derrière, il y a vachement de souffrance. Enfin, nous, nos expériences, elles se rapprochent vachement de celles des personnes adoptées, qui, du coup, sont élevées par des personnes qui ne comprennent pas, de fait, ce qu'ils ou elles vivent. Voilà. Et du coup, moi, typiquement, dans mon enfance, ça a été un peu ça, comme beaucoup de métis de ma génération, donc j'ai 34 ans, mais ça je l'ai compris après. Au début je pensais que j'étais solo et j'avais honte, mais en fait maintenant je m'aperçois que tout le monde est un peu comme ça. Moi j'ai été élevée que par ma famille blanche, donc ma mère, en mode solo, avec le père Westaf absent. Donc on grandit quand même dans ce truc de... les hommes noirs c'est pas bien, même si on te dit l'inverse en fait. Moi j'ai une mère qui est... dans l'exotisation absolue de tout ce qui est noir. Enfin voilà, j'ai grandi avec elle qui me répète tout le temps les mêmes phrases. J'aime la peau noire, c'est merveilleux d'être métisse, les Africains ils sont comme ci, les Africains machin. Et du coup, donc, dans ce discours qui est un peu périlleux parce que ça se cache derrière un truc de positivité, mais en fait, ça fait que véhiculer des clichés et des trucs qui sont pas vrais, et puis mettre tous les Renois et tous les Africains dans le même sac. Toute mon enfance, je fuis les personnes noires, parce que je me fuis moi-même, parce que l'image qui est renvoyée est tellement pourrie. Et moi, c'est à 30 ans, en fait, c'est cette histoire de PMA, moi, qui m'a mis dedans. Parce que, du coup, ça demande un petit peu de réflexion d'avoir un enfant quand t'es deux meufs, de comment on fait, avec le sperme de qui, etc, etc. Et en plus, moi, j'étais dans un dos où je voulais pas d'enfant. Et du coup, je suis partie dans une période d'extrême crise d'angoisse où j'ai fait beaucoup de thérapie, où on a fait beaucoup de thérapie de couple. Et en fait, c'est au moment où, du coup, bon, cette question d'avoir un enfant, du coup, je creuse un peu tous mes propres traumas familiaux, machin, truc et tout. Et j'arrive à un moment face à un mur qui est « Ouais, mais si j'ai cet enfant... » noir, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme culture noire, j'en ai pas. Et du coup, là, je me dis, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et c'est là où je me souviens, je suis en séance de psy au téléphone, dans mon canapé, et je dis, putain, je n'ai pas d'amis noirs. Pire, j'en ai un. Et là, je me dis, c'est un moment de grande angoisse. Et parce qu'en fait, moi, ça se passe précisément au moment où on est en train de choisir le donneur et du coup de se dire comment les origines du donneur et mes origines vont influencer, enfin, dans l'identité de notre enfant et comment ce sera le mieux pour lui. Et du coup, là, me frappe, enfin, qu'est-ce que je veux transmettre du fait d'être noire et qu'est-ce que je veux lui transmettre et comment je veux absolument pas qu'il vive ce truc de se détester lui-même comme je me suis détestée, comme tu t'es détestée toute notre grande jeunesse, disons. Donc voilà, moi, c'est ce moment-là. C'est pas donc une réalisation que je suis noire, c'est une réalisation que mon racisme intériorisé m'a éloigné de moi-même. Et puis au bout d'un moment, on switch et on retourne vers notre... on essaie de redécouvrir notre noirité. Voilà, donc moi j'ai suivi ce trajet un peu. Et là je commence à peu près, là, à 34 ans, à arriver à un équilibre et ça fait du bien.
Dans ce documentaire, on a rencontré beaucoup de gens et beaucoup de gens qui nous ont raconté aussi l'absence de leur père noir.
Mais moi, j'ai une image de mon père très fantomatique, tu vois, parce que je l'ai connu quand j'étais très jeune et maintenant, c'est une... tu vois, j'arrive à avoir des bribes, mais jamais de façon, comme ça, unitaire. C'est toujours des bribes. Après, je pense qu'il y avait un contexte. Tu vois, mon père, il est arrivé en France à la fin des années 70. Moi, ma mère, elle a arrêté l'école, elle avait 14 ans, elle s'est mise à travailler à la filature, on est vraiment dans Germinal, quoi. Et elle donnait son salaire à ses parents, mais 100% de son salaire. Et je sais qu'un jour, elle en a eu marre et elle a décidé de quitter ses parents et de partir à l'âge de 16 ou 17 ans à Lille, qui était la ville importante du Nord, quoi. Et quand ma mère rencontre mon père, qui est noir, mes grands-parents le prennent très mal, mais vraiment très mal. C'est-à-dire que plus personne veut lui adresser la parole, elle se retrouve isolée. En fait, elle est très jeune, elle a à peine 18 ans, sait à peine lire et écrire, elle a jamais travaillé que pour ses parents, et en fait, quand elle s'en libère, elle est presque punie, en vérité. Et je pense que... je sais pas comment recoller les choses, mais... Après, bref, ils se rencontrent, il y a ma naissance et mon père disparaît, quoi. Mes parents se séparent. Alors, est-ce que ce contexte ultra raciste, parce qu'on est quand même à la fin des années 70, Voilà, la disparition de mon père, elle se fait. Ma mère, j'ai toujours, elle a jamais voulu vraiment en parler. Ou quand elle en parle, c'est de façon très pas mystérieuse, mais je sais pas. Allô, mais enfin bon, bref. Et comme je vois que ça l'a fait souffrir aussi, je préfère. J'ai jamais non plus. Voilà. Donc moi, cette histoire de père, ça m'a jamais vraiment fait souffrir. J'ai l'impression qu'il a jamais existé. Ou alors s'il a existé, c'est un fantôme. Tu vois, je sais qu'il... Et c'est très étrange, cette histoire d'en avoir des souvenirs de façon très, très parcellaire, comme ça, et sans jamais pouvoir recoller des morceaux.
Quel genre de souvenirs t'as...
De paroles, de mouvements, d'une silhouette, tu vois, mais jamais en entier. Jamais, c'est toujours, quand c'est une parole, c'est toujours 2-3 mots. C'est toujours quelqu'un qui passe, je sais pas moi, de la salle de bain à la cuisine. Tu vois, mais jamais dans un... C'est jamais une... Je m'en souviens pas comme une personne qui vit et qui parle. Tu vois, voilà. C'est pour ça que c'est... Je dis, c'est très fantomatique. Des trucs que je me suis déjà dit par rapport à mon père, c'était qu'il avait été courageux de venir en France et que... d'être resté avec ma mère et d'avoir subi aussi tout ce qu'il a subi. Et souvent, je me dis aussi que peut-être il s'est barré dans un espèce de pétage de plomb de... Tu sais, de toute façon, on me traite comme une merde. À quoi bon ? Enfin, je sais pas, je peux juste... Puisque ma mère m'en parle pas. Et quand je lui pose des questions, j'ai l'impression qu'elle a perdu la mémoire. Tu vois enfin, ou alors qu'elle veut pas en parler, quoi.
On voit comment l'exil, la migration et le racisme fragilisent aussi les hommes qui deviennent pères et ça fragilise aussi la fonction paternelle.
Mmh, complètement, il y a complètement peut-être de ça. Ouais. C'est, tu vois, oui, c'est vrai que j'aurais dû dire ça. C'est vrai que ça m'est arrivé de fantasmer des choses.
Ça veut dire quoi, fantasmer des choses ?
Bah, fantasmer, c'est-à-dire, tu dis, tu verras, mon père, peut-être, c'est quelqu'un de génial. Genre, je sais pas, j'aurais fait du théâtre avec lui, j'allais dire du basket, mais non, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Tu dis, tu aurais été venu me chercher à l'école, et puis on m'aurait appris des trucs, tu vois, mais t'en sais rien. Enfin, du coup, ça pousse à fantasmer et à, tu vois, à recoller des choses. Voilà quoi, surtout qu'en plus on a tous cette image de l'immigré des années 70 qui ramasse les crottes, tu vois, qui parle à peine le français et qui parle fort et tu vois, je sais pas, le bruit et l'odeur, tu vois, le truc de Jacques Chirac quoi. Donc du coup c'est d'un coup tu fais le fantasme d'une personne qui est immigrée, en même temps tu te dis bah non, mon père il m'aurait pas, je n'aurais pas fait du théâtre avec mon père puisque, tu vois, probablement qu'il n'y avait pas un haut niveau d'études. Et encore, faut-il avoir un haut niveau d'études pour s'intéresser au théâtre ? J'en suis pas sûr, mais voilà, cette espèce de faire des fantasmes avec des bouts de choses. Donc, quelque part, je lui pardonne. Il n'y a pas à pardonner à quelqu'un qui, déjà, ne demande pas pardon. Mais je veux dire, le contexte, je me dis qu'il y a un contexte qui peut aussi expliquer pas mal de choses. Mais là, c'est moi qui dis ça. La vérité, je la connais pas.
On porte les fantômes de nos pères qui ont été foutus ici avec leurs problèmes de mascul, puisque ça reste des mecs, et qui en même temps étaient dans une société ultra raciste à un moment où il n'y avait aucun outil pour le penser. Enfin, s'il y en avait, évidemment, il y avait plein de gens qui les ont pensés avant nous, mais je veux dire un truc où moi je sais que mon père ce qu'il a vécu avec mes grands-parents italiens, je serais partie. Donc mon père il est infréquentable pour plein de raisons et du coup moi je lui dis non mais en fait c'est inacceptable que t'aies fait ça, mais par contre ce que je comprends, c'est que t'as quand même subi vachement de racisme à l'époque de la France, tes grands-parents, etc. Il m'a dit, mais pas du tout. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Tout allait bien, etc. Et du coup, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on porte sur nos épaules, mais maintenant que je te... Enfin, ce truc de nos pères qui... Enfin, il y a le film trop beau, là, de ce réalisateur mauritanien, là, Medondo, qui documente justement cette arrivée de mecs noirs qui vivent un peu tous ensemble, qui sont un peu politisés, qui arrivent du coup dans les années 90 en France, ils ont 20 ans, 30 ans, et voilà, qui travaillent, qui machin. Mais ouais, je pense qu'on porte cette figure et que de cette arrivée de ces mecs noirs, et que pour se réhumaniser, bah on galère quoi. Parce que non, parce que eux, de manière systémique, enfin je veux dire, le fait que tous les darons se soient tirés, il y a un truc systémique de ouf, hein, c'est pas juste des connards. Enfin, il y a un truc systémique de. Ils ne pouvaient pas rester là où ils étaient, enfin, où ils ne pouvaient pas faire famille avec les meufs blanches avec qui. Enfin, en tout cas, je pense que. Et vu que je pense que la thérapie était pas méga. À la mode pour ces mecs-là à cette époque-là, et pour ni les meufs blanches qui étaient avec eux d'ailleurs, et pour des raisons, on sait même pas pourquoi elles étaient avec eux. Enfin, voilà. Ouais, moi je dirais qu'on porte peut-être ce spectre-là.
Toi, Damien ?
Quand on s'est rencontrés, et même encore aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de notion d'identité raciale, en tout cas, entre nous. Enfin, je voyais Anna en tant que personne, en tant qu'âme, en fait, sans vraiment prêter attention à la couleur de peau. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je la regarde, là, je vois Anna, j'ai l'impression de voir Anna, seulement Anna. Je ne me dis pas, ah, là, je suis avec une belle... métisse, ou j'y pense même pas en fait. Donc l'identité, ma propre identité, alors là, pas du tout, je me questionne pas du tout, je suis Damien aussi, je me vois un peu pareil, je veux dire, je pourrais être noir, je pourrais être arabe, ce serait pareil. Après, évidemment, j'ai été sous le charme, elle est magnifique, je peux pas dire que, que je suis pas tombé sous le charme du physique, mais voilà, j'ai été avec, j'ai été en couple avec différentes, je sais pas comment on dit, différentes personnes d'origine tunisienne. J'ai été avec une asiatique. Enfin, j'ai vraiment pas de préférence. C'est vraiment la personne en tant que telle qui m'a attiré.
Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'on s'est jamais trop posé la question de l'identité, parce que bon. Déjà, moi, je pense que j'ai grandi dans une famille où déjà mon père et ma mère sont différents, donc j'étais moi aussi différente d'eux. Donc en fait, tout ça me paraissait très naturel d'être avec quelqu'un qui soit pas forcément comme moi, puisque je l'ai expérimenté depuis toute petite. Et puis aussi, je crois que mes parents m'ont beaucoup transmis ce truc de reconnaître, sans que ça fasse percher, mais de reconnaître un peu spirituellement une personne au-delà même de son physique. Donc c'est vrai que même si tous mes petits amis, quand j'étais petite, ressemblaient quand même beaucoup à Damien, je pense que j'avais quand même certainement un biais vers cette direction-là. Mais globalement, j'en ai rencontré plein des blonds aux yeux bleus. Et puis du coup, ce qui s'est passé avec Damien, c'est qu'il y a eu un truc en plus. Et là, j'ai eu l'impression de reconnecter avec quelqu'un, je sais pas, à un niveau beaucoup plus fort. Et donc, c'est ça qui a dépassé tout le reste. Et en fait, on s'est jamais posé cette question-là. On s'est tout de suite dit qu'on voulait avoir des enfants ensemble. On a eu des enfants ensemble. On n'a même pas projeté quelle couleur ils allaient avoir. Ça a été un peu même la surprise. Et même pour moi, la première d'avoir deux. J'avais jamais imaginé qu'on pourrait avoir deux enfants de couleurs différentes. Parce que mon frère, ma sœur et moi, nous, on est de la même couleur. Donc tu vois, ça c'était vraiment, c'était assez fou, c'était une découverte, mais on l'avait pas du tout pensé avant. Après, on avance un petit peu en marchant, c'est-à-dire que quand on se retrouve confronté à certains trucs, je me dis, ah oui tiens, moi quand j'étais petite, il y avait ça, et donc on en parle un peu différemment avec les enfants quand ça se présente.
A priori, le truc c'est que moi j'ai pas vécu de choses dures liées au racisme, par exemple. Anna, elle m'a pas du tout fait sentir qu'elle avait vécu des choses de son côté. Alors, donc c'est certainement.
Ouais, moi je vais nuancer un petit peu. Moi, je fais une vraie différence entre hommes et femmes. Par exemple, nous, le racisme, ça a été quelque chose qu'on a vécu depuis tout petit parce que mon père est noir. Il y a eu beaucoup de situations. J'ai des souvenirs de ça où il rentrait du travail en disant que on l'avait traité de sale singe, etc. Donc, où il rentre choqué, heurté. Mais voilà, comme c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, il en dit un peu, mais pas trop. Ma mère essaie de lui tirer un peu les vers du nez. Il finit par raconter. Ma mère qui dit, en gros, si on doit porter plainte, on porte plainte. Enfin voilà, j'ai des souvenirs comme ça de, on traite la situation. Par contre, vraiment, tu retournes au travail le lendemain et en fait, on va pas s'excuser d'être là. Tu es qui tu es, ça n'enlève rien à ta valeur. Et je pense que mes parents ont toujours, traité ces situations. Il y en a eu plusieurs à travers le temps, sans colère en fait. Mon père a jamais été en colère. Il a dit, c'est un moment qui passe, je le traverse et j'y retourne et je vais pas changer, etc. Donc moi, je pense que j'ai vu ça et je pense que j'ai intégré quelque part que toute insulte raciste ou en tout cas évocation à caractère racial n'était pas si grave. Enfin, c'est-à-dire que ça veut pas dire, ça enlève pas la gravité du sujet. Si on doit porter plainte parce que c'est grave, on y va. En revanche, ça ne touche pas vraiment à qui je suis. Moi, je me définis pas en vrai comme métisse. Je le dis socialement parce que parfois c'est important de le dire ou parce que j'estime que, je sais pas, certains ont besoin de l'entendre ou pas, mais en vrai, si je me décris, moi, Anna, si je dois pas décrire mon physique, bah, je suis quelqu'un de solaire, de rayonnant, de curieux, qui aime voyager, ce que disait Damien tout à l'heure, un peu ce truc de l'âme. Donc, voilà, tout ça pour dire que le racisme n'a pas été un traumatisme pour moi aussi parce que je suis une fille. En revanche, ça l'a été pour mon frère. Mon frère, donc il y a 10 mois de moins que moi, ne vit plus en France, il vit en Espagne, et il est hors de question qu'il revienne un jour vivre et travailler en France. Parce que, quand il s'appelle Malik, quand il a fait ses études, il a eu des situations assez compliquées, il n'a pas trouvé de stage, tous ses copains en trouvaient. Quand il rentre dans un magasin, on est le premier à lui faire les poches, contrôle de police, quand il est en voiture, mon père pareil. Et mon frère, contrairement à mon père, l'a toujours un peu plus... Il a vraiment trouvé ça injuste, tellement injuste, qu'il s'est dit très vite, dès que je peux faire un stage, je vais ailleurs. Et il est parti faire un stage à Londres. Et en fait, il a adoré Londres parce qu'il trouvait qu'on n'était pas jugé ni vis-à-vis de son nom, ni vis-à-vis de sa couleur. Et de là, après, il a continué. Bon, bref, et aujourd'hui, il vit en Espagne. Et à chaque fois, on lui dit, ah, mais un jour, tu reviendras en France. Il a un petit garçon maintenant, petit garçon qui est blanc parce qu'il est marié à une Ukrainienne. Et il dit, bah non, je ne reviendrai pas en France. Parce que y a trop de... La France est un pays raciste. Donc... Moi, je ne l'ai pas vécu directement en tant que fille, parce qu'on m'a acceptée, et d'ailleurs, on m'a peut-être même souvent acceptée parce que j'étais une fille métisse jolie. Donc, j'en ai peut-être même bénéficié, on va dire, mis à part 2-3 réflexions un peu exotiques de temps à autre. Mais ça, je pense que j'en ai quand même pas eu depuis 5-6 ans. Enfin, maintenant, les choses changent un peu, mais avant, beaucoup. Donc, j'en ai bénéficié. Mais un garçon, moins. Et en fonction du prénom qu'on porte aussi, du nom de famille qu'on porte. Voilà.
Avez-vous déjà remarqué des stéréotypes liés à la race chez votre partenaire amoureux, sexuel, chez Michel et chez vous, Johan? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté? On peut peut-être commencer par toi, Johan.
Eh bien, moi, non. Par rapport à Michel, hein. Encore une fois, c'est... je sais pas, peut-être j'ai tombé sur le bon numéro. Non, j'ai pas, je me suis jamais senti
fétichisé
voilà. Ou ce genre de choses. Non, j'ai pas grand chose à en dire par rapport. Je pourrais dire par rapport à d'autres, parce qu'avec Michel on est un peu en couple libre, donc mais ça, je pourrais dire d'autres partenaires, mais pas par rapport à Michel.
Et si tu acceptes d'en parler, qu'est-ce que ça a fait de se sentir fétichisé? Et est-ce que parfois on accepte la fétichisation?
Par lassitude, ouais, parce que parfois j'ai marre de répéter 50 000 fois les mêmes choses. Mais souvent maintenant je le vois arriver de loin. Et j'arrive à arrêter la chose en amont, en vérité, quoi. Donc, j'arrive de moins en moins à me faire avoir par rapport à ça. Mais au demeurant, il y a la question de... tu vois, par exemple, dans la sexualité, il peut y avoir des jeux de dominant, dominé, qui peuvent être très consentants, en vérité. Est-ce que quand t'es noir, tu peux aussi aimer te faire dominer, par exemple? Tu vois, enfin, c'est, tu peux rentrer aussi dans un jeu sexuel où je parle pas forcément de sadomasochisme, hein, d'ailleurs, mais tu vois, la question, c'est oui, on peut être noir et être dans une espèce de dynamique de rôle comme ça dans la sexualité, mais parce qu'on le veut bien, tu vois, parce que on l'accepte, parce que c'est ce qu'on recherche, etc. qui est différente, effectivement, de où on se fait imposer, puisque le truc, c'est souvent, t'as forcément, je le dis crûment, mais une grosse teub, tu vas forcément, t'es un animal qui va forcément y aller comme un bourrin. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, dans le milieu homosexuel, quand t'es noir, t'es forcément actif. T'as forcément une grosse un gros pénis et tu prends forcément pas de gants. Enfin, de moins en moins maintenant, quoi. Mais c'est quand même ça, quoi. Alors il y a toutes les palettes. Il y a des gens qui vont te le faire comprendre de façon très directe et puis parfois c'est beaucoup plus insidieux, quoi. Voilà. Donc moi, non, j'aime pas. J'aime pas parce que ça me renvoie à une image de sauvage que je suis pas. Et puis ça renvoie aussi toujours l'idée que bah, comme t'aurais un sexe énorme, et bah, tu serais un teubé, tu vois. Et puis dans le milieu homosexuel aussi, il y a beaucoup les trucs des plans, c'est je te prends et je te jette, et quand c'est terminé, c'est au revoir, ciao. Donc s'il rajoutait encore en plus de ça l'idée que, en plus déjà d'être consommable et jetable, mais t'es encore en plus, t'as ça on top of it, quoi, tu vois, non, ça me... Par rapport à l'image de soi, tu vois, quand t'es dans des moments où t'as pas hyper confiance en toi, ou... etc., enfin, qui sont... ouais, qui sont pas terribles, quoi.
Michel, toi, ça te fait quoi de te dire que l'homme que tu aimes, ton conjoint, il peut vivre ça?
Ben, en fait, c'est déjà arrivé, moi, que sur les applis, des mecs viennent me demander, parce que moi, c'est affiché que je suis en couple. Hein, c'est, et qu'on me demande si mon mec est noir, ou arabe, ou métis. Ou... Et quand je réponds, c'est tout de suite les clichés véhiculés par l'industrie du porno. Donc, je coupe court à ça.
J'ai une première prise de conscience en 2017 quand je vois le film Ouvrir la voie d'Amandine Gay. En fait, moi, jusque-là, je me suis toujours dit « Ah, je pourrais jamais sortir avec une meuf renoire. Ah, je sais pas, non, je pourrais pas. Voilà, enfin, des phrases qui finalement sont... C'est marrant, hein, à quel point on se déteste et à quel point... Parce que je sais pas quoi, les meufs renois. Bon, de toute façon, c'était logique, vu qu'on les fuit, même en tant qu'amis, on va pas sortir avec. Et du coup, moi, je vois ce film, et en fait, ce film, c'est face caméra, une vingtaine de femmes et personnes noires qui racontent, françaises, qui racontent un peu des trucs de leur vie, de c'est quoi d'être une femme noire française. Et ce film, bah, il a un peu changé la vie de beaucoup de personnes noires de notre génération, parce que d'un coup, moi, j'entends des choses où j'ai l'impression que je suis la seule à le penser, et en fait, je me rends compte que toutes disent ça. Que, ah ouais, au début, enfin, franchement, elle pouvait que être avec des blancs, parce que, voilà, ceci, cela, et puis que, en réfléchissant, en se déconstruisant, bah, leur désir, il a aussi changé aussi, etc. Et là, je me dis, ah ouais, putain, en fait, c'est pas juste... Enfin, déjà, pareil, j'ai cette sensation de genre... Ce que je ressens, en fait, c'est pas que moi, c'est le fruit d'un système. Et donc, d'une part, c'est cool parce que je culpabilise moins, et d'autre part, c'est cool aussi parce que peut-être que je peux le changer. Mais pour autant, moi, si je sors que avec des meufs blanches... Et d'ailleurs, mon désir ne se fixe que sur des meufs blanches. Donc, 2017, je vois ce film. Ensuite, 2020... j'ai ma petite réalisation sur mon canapé avec la Psy Hôtel et je me dis ok, il faut que j'ai plus d'amis noirs, et du coup forcément bah je rencontre plein de meufs trop stylées. Et puis en plus maintenant, il y a tout un truc de des meufs queer racisées qui font plein de soirées, qui, enfin, il y a plein d'événements géniaux, etc., etc. Donc en fait, t'es là, enfin, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte de Alice au pays des merveilles. Et du coup, je vois ces gens qui sont juste des personnes trop stylées, qui prônent des valeurs de gentillesse, enfin, d'antiracisme. Bah évidemment que là, mon désir, il a shifté. Depuis, en fait, mon premier, je me souviens très bien de mon premier crush sur une meuf noire. C'était en 2022, mais c'est un vrai crush. Je me dis, bon, il se trouve que je suis déjà en couple avec ma meuf blanche et que je l'aime trop. Donc, et qu'on n'est pas dans un truc de couple ouvert. Donc voilà, mais en tout cas, je suis super contente parce que mon désir, je sais qu'il a shifté. Et maintenant, ce que je me raconte, mais bon, ça, on aime bien se raconter l'histoire, c'est que quand on sera plus ensemble avec ma meuf, puisque l'amour ne dure pas, même si bon, là, ça commence à faire un petit moment, bref, je me bats tout, voilà, on sait pas. Mais en tout cas, je sais et je suis trop contente que mon désir, il a shifté parce que finalement, en me mettant à désirer les meufs noires, qu'est-ce qui se passe? En fait, je traîne avec des meufs qui ont des corps qui me ressemblent pour la première fois. Genre, alors que moi, en fait, je me suis toujours trouvée difforme. Bah forcément, j'étais avec mes potes blanches minces en permanence. Alors que là, en fait, je suis entourée de meufs que je trouve trop belles et qui me ressemblent. Donc forcément, bah d'un coup, je commence à me trouver mieux, moi-même. Voilà. Donc, toutes ces années de se détester, quelle fatigue.
C'est que j'ai connu Anna, bon, elle est belle, elle est métisse et tout. C'est quand j'ai vu tes parents pour la première fois, j'avais jamais imaginé ça, de voir son père aussi noir.
Damien.
Vraiment noir, hein, noir de peau au Sénégal, ouais. Ils sont vraiment très foncés. Ouais. Et sa mère blanche, rousse. Donc les deux extrêmes, et je me disais, ah, c'est drôle de... Enfin, j'ai trouvé ça drôle, après, de me dire que c'est ces deux personnes-là qui ont donné vie à Anna. Je trouvais ça beau, en fait. Je trouvais ça rigolo.
Mais c'est marrant que tu dis ça,
mais
parce
qu'il y a... plutôt rigolo.
Il y a plein d'amis, la première fois qu'ils voient mes parents, ils me disent, oh là là, mais en fait, tu ressembles pas du tout à tes parents. Ou tes parents te ressemblent pas, ou on n'imaginait pas ça comme ça. Parce que souvent, on pense que je suis... antillaise, donc on imagine deux personnes un peu comme moi qui ont fait quelqu'un comme moi. Mais si j'ai pas précisé qu'il y avait un blanc et un noir dans l'histoire, ou même quand je dis, ça m'arrive ça hyper souvent, je dis ma mère, elle est blonde et elle a les yeux bleus, et là tout le monde me dit, ah oui, donc t'as pris vachement du côté de ton père. Et là je dis, bah non, en fait c'est vraiment moitié-moitié, parce que mon père il est vraiment très noir. Mais non, mais t'as quand même vachement plus pris de son côté. Je dis, bah vous avez pas vu mes parents, parce que je suis vraiment moitié-moitié. Mais à chaque fois on me dit toujours, ah bah du coup tu ressembles, enfin t'as forcément pris plus du côté du papa.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi à qui on ressemble du côté de la perception, c'est-à-dire de l'image. Presque à un niveau génétique, être très noir ou être plutôt blanc. Alors qu'en fait... comment on se construit, c'est aussi par rapport à des identifications, par rapport à un rire, par rapport à une manière de se tenir, par rapport à un tic, je sais pas, verbal, par rapport à plein d'autres choses qui font qu'on est une personnalité et qu'on ressemble un peu à notre père ou à notre mère, mais pas seulement physiquement, mais aussi par rapport à une façon d'être, finalement.
Des attitudes.
Je suis complètement d'accord, parce que tout le monde dit que Léonie, notre fille la plus métisse, c'est le portrait craché de sa mère, et moi je dis mais pas du tout, c'est elle me ressemble, moi elle a tout de moi, et ça m'agace au plus haut point. Voilà, juste parce qu'elle a la couleur de peau plus proche. Voilà.
Alors ce qui est très juste, c'est que bah quand Léonie est née, elle était mate, tout ça m'a semblé très logique. Bon, qu'elle soit un peu de nous deux, elle avait les cheveux moins frisés que moi, mais elle a quand même des boucles un peu comme vous. Peut-être un peu plus serré, mais bon, voilà, c'est ce type de cheveux plutôt. Ça me paraissait assez logique. Et quand, donc du coup, Léonie et Noah, elles ont à peine un an et demi d'écart, elles ont 15 mois d'écart. Donc quand Noah est née 15 mois plus tard, je m'attendais un peu à un espèce de pseudo-copier-coller. Et c'est vrai que dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée un peu blanche et je me suis fait la réflexion et presque j'ai culpabilisé de me dire, oh là là, mais tu regardes sa couleur de peau. Et le dernier truc, c'est que le jour où on doit sortir de la maternité, la pédiatre passe, elle la regarde sous toutes les coutures, bref. Et elle me dit, ah, elle a un petit duvet un peu blond. Elle dit, celle-là, elle va vraiment être blanche. Et vraiment, je me rappelle de ce moment. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi.
Bah, je me rappelle que tu me l'as raconté, mais
ah oui, voilà. Pas choquée, mais... Oui, mais toi, ça t'a pas choqué, mais moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai un enfant blanc. Et je suis sortie de cette maternité en focalisant sur l'idée que j'avais un enfant blanc, alors que je n'avais jamais conçu ni imaginé le fait qu'un jour, je pourrais avoir un enfant blanc.
Bah, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, par exemple, des généralités du type « quand on est métisse, on est forcément beau ». Il y a le mélange de génétique qui fait que ça, il y a que le plus beau qui ressort. Donc j'avais cette idée là pour ma fille qui fait que d'avoir une fille Carteronne, je m'inquiétais pas, je me disais ah bah ça peut être qu'un plus. Voilà, je le voyais plutôt comme un plus. Après quand Noël est arrivée et qu'elle était blanche, je me suis dit bah c'est cool, je suis content aussi. Enfin oui, je me suis pas posé vraiment la question, T'es content d'avoir une...
Oui, je crois que toi, tu t'es moins posé la question que moi à ce moment-là.
Non, ça me faisait bien rire quand on te prenait pour la nounou.
Ouais, alors voilà.
Ça me fait plus rire moi. Parce que je connais notre vie, on est proches, donc on peut en rire. Mais c'est pas un tabou du tout de parler de tout ça. Mais c'est vrai que de voir les autres se dire, tiens, ma femme qui est la maman, c'est la nounou de ma fille. Enfin bon, c'est peut-être pas très clair. En tout cas, intérieurement, je me... Ça me faisait rire de la charrier un peu là-dessus.
Ouais, moi, ça me faisait pas rire du tout. Très bête, à la crèche, je vais la déposer, et puis je la récupère le soir, et on me dit, ah, bah, vous direz donc à la maman qu'elle a bien dormi, qu'elle a bien mangé, tu sais, je dis, bah, c'est moi la maman, en fait. Et donc, il y a toujours un moment d'arrêt de 2 secondes. Alors, bon, je sais pas, on s'imaginait pas du tout que je puisse être le parent. Au-delà de ça, même encore aujourd'hui, ça arrive, mais un peu différemment, c'est que Léonie et Noah sont très différentes. Personne ne pense qu'elles sont sœurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis, bah, c'est mes filles, on me dit, mais même père ? Là, je dis, bah oui. Mais vous êtes sûre ? Je dis, bah, je les ai portées quand même. Enfin, ce truc de la justification. Et en fait, ça, à chaque fois, ça me rappelle ma mère. J'ai des souvenirs très précis au Carrefour. On habitait en Guadeloupe, on allait faire les courses, et puis à chaque fois qu'on passait en caisse, donc il y avait donc mon frère, ma sœur et moi avec ma mère, à chaque fois on disait « Ah, c'est vos enfants, vous les avez adoptés ?» Et à chaque fois on dit « Mais ben non, je ne les ai pas adoptés. » Au Carrefour ou ailleurs, enfin, c'est arrivé vraiment des centaines de fois. Il dit « Mais vous êtes sûre ?» Il dit « Bah quand même, je les ai eus dans mon ventre, je sais que ce sont mes enfants. » Et en fait, je me suis entendue faire le même type de réponse aujourd'hui, comme si je devais vraiment montrer patte blanche pour justifier que j'avais un enfant. Enfin, ça paraît tellement pas évident pour le reste du monde qu'il faut que je le prouve. Et moi, en plus, j'en rajoute. Enfin, je me sens vraiment obligée de me justifier. Alors que on me dirait même père, je pourrais juste dire oui. Et je pense que jusqu'à ce que Noah ait 2 ans, peut-être, oui, j'avais ce truc-là de me dire, mais on me reconnaît même pas ce truc-là, alors que je suis la personne qui la haine. Mais parce que je pense que j'étais aussi moi-même un peu encore en colère sur ce positionnement. Parce qu'en fait, être métisse, c'est toujours avoir le cul entre deux chaises, tout le temps. Et sur la couleur, on en parlait tout à l'heure. Quand je suis ici, je suis considérée comme noire. Quand je suis au Sénégal, je suis blanche. Quand je suis en Guadeloupe, ça dépend ce qu'on a envie que je sois, puisque j'ai grandi en Guadeloupe. Donc. Et donc là, en fait, ça mettait juste en évidence que, encore une fois, c'était pas clair, j'avais pas ma place... clairement acquise dans la société.
Ce que vous dites, et ce qui est assez singulier, c'est que d'ordinaire, on pourrait dire que les pères, on a plus tendance à penser qu'ils sont incertains parce qu'ils portent pas l'enfant, et que les mères, il y a une certitude donnée, c'est la mère. Et là, dans ce que vous dites, c'est comme si l'incertitude, elle reposait plus sur vous que sur Damien. Oui.
Oui, non, mais alors, moi, tout à l'heure, je t'ai dit, quand j'étais enfant, je n'avais pas conscience. Mais quand je le dis, c'est vrai. C'est-à-dire, je ne me posais pas cette question-là. Pour moi, quand je voyais ma mère qui est blanche, il n'y avait pas de différence. Voilà. Et j'ai commencé à m'en rendre compte quand... Je vais raconter une anecdote, parce que c'est peut-être celle, quand j'étais enfant, qui m'a fait le plus... J'ai réalisé le plus que là, c'était cette personne-là qui avait acté ça. Je suis à l'école primaire et c'est la fin de journée. Et je raccompagne une camarade de classe puisqu'elle habite sur le même chemin. Et sa mère l'attend sur le perron de la porte. Et je la regarde partir sur le perron de la porte. Sa mère l'attend à la porte. Et sa mère me regarde et elle me dit, j'ai une question à te poser. Je voulais savoir comment tu te laves le matin. Et moi, je lui réponds bêtement parce que je pensais que ça l'intéressait, que ça, qu'elle a, je lui réponds, je lui dis, ben, je me lave avec de l'eau et du savon. Et elle me dit, ah, parce que je pensais que tu te lavais avec de l'eau de Javel pour enlever toute cette crasse. Donc, est-ce que, oui, je me suis déjà posé la question de savoir si j'avais été blanc, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est-à-dire, alors je souhaite pas être blanc, hein. Tu vois, donc oui, voilà, je me suis déjà dit que blanc, ça aurait été beaucoup plus pratique et que j'aurais pas dû, ça aurait été beaucoup plus simple en vérité.
Est-ce que, Michel, tu dirais d'une certaine manière que t'es comme un peu déclassé, c'est-à-dire soudain, tu dois vivre des choses que, si que tu ne vivrais pas si tu n'étais pas avec lui.
Ah ouais, complètement. Oui, oui, parce qu'en fait, moi, j'avais pas conscience de ça avant. Parce qu'avant, j'étais avec un mec blanc. Bon, j'avais des copains d'origine différente, enfin, de couleurs différentes. Mais le fait d'avoir un quotidien, je peux soulever les choses et les remarquer. Mmh. Et je peux les partager avec mon entourage aussi. C'est une raison pour laquelle on a accepté de participer aussi. Peut-être que les gens qui vont nous écouter vont pouvoir capter un peu mieux les choses et être un peu plus alertes, en fait.
Est-ce que toi, t'es en colère? Est-ce que t'es plus en colère? Est-ce que t'as trouvé? Est-ce que le comptage, ça t'évite justement la colère? C'est action, réaction. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme noire en colère? Est-ce que toutes les femmes noires sont en colère? Parce que c'est quand même le... C'est aussi un des grands clichés. Les femmes noires sont forcément en colère. Par ailleurs, elles peuvent être en colère, hein, si je peux me permettre. Elles ont des raisons de l'être.
Oui, oui, moi je suis en colère. Mais je suis en colère au sens où c'est juste un moteur. Et que ça me permet d'être, de me défendre en fait. Mais là, j'arrive un peu à un truc où j'étais surtout en colère et puis depuis ces dernières années, avec les crises d'angoisse, le truc de la PMA et tout ça, j'ai la peur qui est vachement venue. Bah, je pense que j'avais très 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 peur d'avoir un enfant, peur pour lui, peur pour moi, peur de voir ma meuf blanche dans ce rôle de mère blanche d'un enfant métis, peur de moi être malheureuse, peur que lui soit malheureux avec nous. Voilà, vu que c'est un peu des grands trucs quand même de faire venir quelqu'un qui a rien demandé dans ce monde-là.
Peur de reproduire? De reproduire ce que toi t'as vécu?
Oui et non. Je savais que j'avais ce truc de je n'ai pas le droit d'abandonner mon enfant. Parce que lui il l'a fait et que je peux pas le faire. Du coup ça me stresse. Parce que en gros si j'ai un enfant, faut quand même que j'assure.
Est-ce que t'as l'impression parfois d'être un peu, ou d'avoir été, peut-être si ça va mieux maintenant, d'avoir été un peu seule face à ces questions-là?
Bah complètement.
Anna.
En fait, je sais même pas à qui j'aurais vraiment pu en parler. Je pense que je savais même pas si ça méritait d'être énoncé, tu vois. C'est vrai que c'est beaucoup, enfin aujourd'hui c'est mieux, mais j'ai le souvenir quand même. Comme on a vécu en Guadeloupe, donc avec un papa sénégalais, une maman blanche, eux ont souffert de racisme, et nous aussi, en fait, à l'école. Parce qu'en fait, on ressemblait aux autres d'un point de vue couleur de peau, mais à partir du moment où on savait qu'on avait un père qui était sénégalais, c'était le singe africain, et je caricature, celle qui vient voler le travail de leurs parents. Donc, en fait, toutes les luttes, les luttes intrinsèques des Guadeloupéens... Enfin, envers le colonisateur, etc., c'était sur ma mère. Et puis, sur l'esclavage, c'était mon père, donc l'humiliation, etc. Bon, moi, je me suis retrouvée là-dedans. Et c'est vrai que cette notion de rejet, de t'es différente, etc., ça m'a vachement marquée enfant. Et donc, quand on fait une remarque sur elle est différente en me montrant du doigt, par exemple, parce que j'ai les cheveux comme ça ou parce que j'ai une couleur de peau, ou... c'est vrai que ça vient... Ça me crispe un petit peu.
Et Damien, comment t'accueilles la colère si colère, l'agacement que peut-être a Anna
sur ces questions-là?
Moi, j'ai une tendance à la laisser dire tout ce qu'elle a à dire et pour qu'elle puisse s'extérioriser, exprimer, même si je suis pas sur la même longueur d'onde très souvent. Sur ces questions-là de d'être la seule noire dans le restaurant, par exemple. Elle va rentrer dans un restaurant, elle va dire, ah, bah, je suis la seule. Moi, au fond de moi, je me dis, bah, oui, c'est pas grave. Si elle se posait pas cette question-là au moment précis, je me la poserais pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que même on rentre dans un endroit, je lui dis, ah, bah, tiens, il y a deux noirs là-bas, t'as vu, c'est super. Elle est là, ah, ouais, on rigole, et puis voilà. Donc je le prends plus sur le ton de la rigolade aujourd'hui. Mais à une époque, c'était compliqué de l'avoir autant en colère.
Ouais, mais parce que, en fait...
Je ne comprenais pas, moi, de mon point de vue.
Je dis pas que la colère est forcément légitime, mais je pense qu'il y a un truc qui est vraiment de l'ordre du déracinement, qui, chez moi, est hyper présent. Parce que mon père a quitté le Sénégal pour venir ici, parce qu'il est noir africain et qu'il porte quand même ce truc de la colonisation, qu'on le veuille ou non. La France est mieux que tout le reste. Il faut rentrer dans le moule, il faut pas trop se faire voir au contrôle de police, il faut rien dire, il faut vraiment être assimilé, quoi. Non mais oui, tu vois, pas de blanche, exactement. Tu vois.
Ah oui.
Donc ce truc là, voilà. Et ma mère, abandonnée à la naissance, donc elle aussi en recherche de racines. On part tous vivre en Guadeloupe parce que ma mère pense qu'on va souffrir, nous, ses enfants métis, de racisme ici.
En France.
En France, métropolitaine. On se retrouve en Guadeloupe, eh ben, c'est la totale. Le racisme, il est là-bas, il n'était pas ici pour nous, en tout cas. Donc, ce truc d'être déplacé avec des parents qui cherchent eux-mêmes leurs racines... Et donc, de se retrouver à certains moments un peu stigmatisé, et je dis un peu parce que je n'ai jamais été victime de violences racistes comme certains peuvent l'être au quotidien ou d'agressions, voilà, qui s'accumulent, etc. Enfin, je veux dire, tout va bien. En revanche, c'est toujours cette question de trouver sa place quand on a été déraciné à plein d'endroits. Eh ben, c'est dur quand on vient de temps en temps appuyer sur ce petit truc du toi, t'es différente. Toi, t'es pas comme ça. Il y a ce truc en moi qui revient, qui me fait me dire, il faudrait que je sois comme ça pour que ça leur plaise, comme s'il y avait un truc un peu plus grand. Donc de toujours essayer de me glisser dans un moule et en même temps avec cette volonté d'être vraiment parfaitement moi qui n'est pas dans ce moule. Donc c'est vrai que il y a un peu ces deux trucs là qui rentrent en conflit de temps en temps.
C'était de père en fils, de mère en fille. Avec Elina, Johan, Michel, Anna, Damien et Amira Yayaoui. Un immense merci à Léo Thème Giordano et Karima Yayaoui. Prise de son Tar Bouclifin, Olivia Granger, Julien Girard. Mixage, Nadège Antonini. Documentation d'actualité, Alice Signoret, Eva Canet-Paro. Documentation musicale, Antoine Villoz, Nathalie Rouvillain, Samy Messaoud. Chargé de programme, Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. La vie en noir, une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelboum. I got a date at 8. I got
could be a fixer-upper, no Cinderella, I got no glass slipper, whoa. Watch out, because I'm slipping on insecurity. I need you to hurry up and change me. I need you to know that I'm a fixer-upper. I need you to fix me glass and for surrender. I need you to help me with the surrender.
I need you to change me quick. I need you to change me quick.